Chapitre 48. Saga est assise par terre, devant l'écran gris-argenté de son home cinéma. Elle a l'impression de se trouver dans la même pièce que la patiente sur la vidéo. La jeune femme est recroquevillée dans un coin au pied d'un lit. Elle se bouche les oreilles avec ses mains. De temps à autre, de petits tremblements secouent son corps. Elle porte un pantalon de survêtement gris, dont les genoux sont tachés, et un t-shirt avec la pochette de l'album Arrival d'Abba sur la poitrine. Ses cheveux sont creusés, et elle regarde devant elle d'un air apathique. Ses cheveux emmêlés semblent poussiéreux, et sa peau est grise comme du béton. Un plafonnier avec un abat-jour en tissu rose diffuse une lumière chaude dans la petite pièce. On distingue une tête de lit en bouleau, un tapis jaune vif posé sur un lino jaune clair, et un papier peint avec des motifs de muguet. Le bruit d'une chaise que l'on traîne sur le sol fait grimacer la jeune femme. « Bienvenue à Itéreux, Mara, » dit un homme hors champ. « Je m'appelle Sven Ove Kranz et je travaille ici comme psychologue. Mon collègue Von Fersen, qui t'a admise, a diagnostiqué chez toi une psychose. F60. » Selon la CIM-10. Mais moi, je ne me préoccupe pas de ça. Je ne te considère pas comme une malade, mais comme quelqu'un d'incompris. Nous allons nous rencontrer plusieurs fois, et j'espère qu'ensemble nous pourrons transformer cette incompréhension en compréhension. Un filet de salive s'écoule de la bouche de Mara. Le matériel que Saga a récupéré à Itéreux se compose de 3 disques durs contenant un certain nombre de films en haute résolution et d'un dossier avec des documents manuscrits. Les formulaires et les documents décrivent uniquement la thérapie en cours, mais pas la teneur des conversations. Il s'agit principalement de notes quotidiennes sur la médication, de rapports sur les effets secondaires, de la courbe de poids de la patiente et de ses relations avec les autres patients. Les films montre des sessions mensuelles assez courtes, une sorte de thérapie brève, orientée, entre le thérapeute et Mara Makarov. Selon le rapport manuscrit, la méthode de Kranz consiste à écouter et à prendre au sérieux la description de la réalité faite par ses patients, sans les remettre en question ni essayer de les convaincre qu'ils ont tort. Si l'un d'entre eux est persuadé d'être sur écoute, Kranz lui suggère de mettre de la musique à haut volume dans la pièce, de s'asseoir près de son interlocuteur et de parler tout bas. Le portable de Saga sonne. Elle voit sur l'écran que c'est encore Juna et décline l'appel. Les phares d'une voiture qui passe dans la rue glissent en diagonale sur l'écran juste au moment où la deuxième séance commence. Mara Makarov est filmée dans sa chambre par la trappe de la porte alors qu'elle tente de casser la fenêtre avec le pied d'une grande lampe. Elle est entièrement nue. Et son corps maigre est couvert d'ecchymoses et de blessures. Des spaghettis et de la sauce tomate ont été balancés sur un mur. Mara semble extrêmement angoissée. Son corps tremble, et elle crie des mots en russe. Sa voix se brise à plusieurs reprises. 2 soignants sont avec elle et essaient de la calmer. Elle se tourne vers eux, les pupilles dilatées. De l'urine se met à couler le long de ses cuisses minces. Lorsqu'ils s'approchent, elle les attaque avec la lampe. Mais les hommes réussissent à la maîtriser, l'allongent par terre et lui font une injection intramusculaire dans une fesse. L'enregistrement s'interrompt. Et lorsqu'il reprend, la caméra est de nouveau sur le trépied dans la chambre de Mara, qui est allongée dans son lit. Elle a une compresse sur un œil et regarde fixement devant elle de l'autre. La nourriture a été essuyée à la hâte sur le mur, des traînées rouges sont encore visibles sur le papier peint. « Mara, j'ai bien compris que tu veux sortir d'ici et que tu as peur d'être empoisonnée. » Commence Sven Ove Kranz. « Si tu le souhaites, moi ou un aide-soignant pouvons goûter ta nourriture avant que tu ne la manges. Mais je ne peux malheureusement pas te laisser sortir d'ici sans concertation avec mon collègue » qui lui te considère comme psychotique. Tu comprends? Il faudra un certain temps avant que tu puisses sortir d'ici. Mais en attendant, tu peux me parler. Si je peux faire quoi que ce soit pour toi, je sais que tu es fatigué. On t'a donné un sédatif appelé haloperidol. Il n'est pas dangereux, mais il te rend somnolente. Je vais te laisser dormir maintenant. Saga met sur pause et emporte le rapport manuscrit du psychologue dans la cuisine. Elle le parcourt et s'attarde sur les commentaires qui suivent la dernière séance et la procédure de sortie pour essayer de comprendre où la patiente est allée. La personne que Kranz décrit à la fin est une jeune femme calme, en adéquation avec son histoire et avec l'image qu'elle a d'elle-même. Elle s'attache à son apparence, s'habille avec soin et a de grands projets d'études en mathématiques. « Qui es-tu ?» murmure Saga. « Où es-tu allé après ta sortie de l'hôpital ? Qu'as-tu fait ? Où es-tu en ce moment ?» Mara Makarov se tient devant l'établi de l'atelier. Elle se frotte le visage avec les mains, puis feuillette un livre sur l'algèbre abstraite et encercle au crayon rouge la structure des nombres complexes. Les mains tremblantes, elle ouvre une boîte de conserve de maïs, mange les grains avec ses doigts, puis boit le liquide trouble. Elle sent son estomac se tordre, s'agenouille et vomit dans un seau. La femme allongée sur la rampe en béton menant au quai de chargement a repris connaissance. Après avoir crié et supplié, elle essaie maintenant de reprendre ses esprits.
« Écoute-moi, » dit-elle, « je ne sais pas pourquoi tu fais ça. »
Mara crache de la bile, ramasse les grains de maïs au fond du seau, les remet dans sa bouche et les mâche lentement.
« Qu'est-ce qui t'est arrivé ?»
demande la femme. Mara continue de fourrer les grains de maïs dans sa bouche et se lève tout en mâchant.
« Je pourrais avoir de l'eau. J'ai très soif. »
La femme se tait et halète à cause de la douleur et de l'angoisse. Mara balaie d'un geste de la main le livre et les crayons posés sur l'établi, puis sort une bouteille en plastique bleu, verse du chlore sur le plan de travail et l'essuie. La femme pousse un gémissement avant de réussir à articuler quelques mots.
« Tu m'as fait mal. Tu veux en parler ? Je suis blessée. Tu m'as tiré dessus. Tu as tiré sur quelqu'un. Je saigne et j'ai très mal. »
Mara ouvre un sachet, enfile des vêtements stériles, des gants en latex et un masque. Attrape une boîte, en sort une chemise en plastique contenant les pages déchirées de plusieurs livres de bibliothèque. Avec un scalpel, elle découpe une partie de l'image du tableau de Botticelli, La naissance de Vénus, et la place à côté d'un vieux plan de l'hôpital d'isolement des maladies contagieuses de Ross Laxtal. Elle fouille dans la chemise, trouve un texte sur la résistance des matériaux des bâtiments sphériques et le place à côté des deux autres documents.
« Est-ce que tu remarques que ma douleur et ma peur n'enlèvent rien à ta douleur et à ta peur ?»
dit la femme entre deux respirations rapides.
« Mais je crois que si tu m'aides, si tu m'emmènes à l'hôpital, alors tout changera. Tu sentiras un soulagement. Tu ne crois pas ?»
Mara s'éloigne et jette le scalpel, les gants et les vêtements de protection dans la poubelle des déchets combustibles.
« Parce que si tu aides quelqu'un, tu acceptes aussi qu'on t'aide. Tu m'écoutes. Tout le monde a besoin d'aide. On n'est pas seul, même si on en a parfois l'impression. Il n'est pas trop tard pour changer de direction. »
Mara se baisse pour récupérer le scalpel, entaille profondément la peau sous les ongles de son index gauche et prend une profonde inspiration en sentant la douleur monter. Elle regarde maintenant la femme sur la rampe. Elle est allongée sur le dos, le regard tourné vers le pont roulant. Sa respiration est courte et saccadée. La balle a manqué sa colonne vertébrale, a traversé ses intestins et est ressortie juste à côté de son nombril. Le sang s'écoule le long de ses jambes et disparaît dans le siphon au sol. Mara grimpe sur la lourde armoire à outils, s'accroupit et regarde les matériaux posés sur l'établi. Elle secoue sa main pour se débarrasser du sang qui coule, regarde les gouttelettes voler dans les airs et parsemer le sol. Elle se dit qu'elle devrait mettre son masque, ses gants de chimiste, ouvrir le sac d'hydroxyde de sodium, ramasser avec la louche 15 litres de pastilles et les dissoudre dans une quantité minimale d'eau.
« Viens ici.
Regarde-moi dans les yeux. » dit la femme, qui ne parvient plus à dissimuler la peur dans sa voix.
« Je ne veux pas mourir. Je ne mérite pas de mourir. Peu importe ce que tu as vécu. »
Mara redescend. Laisse l'urine s'écouler le long de ses jambes, tandis qu'elle va chercher son pistolet dans la boîte à outils. Elle le fixe un moment. Met la bouche du canon sur sa tempe, puis vise la femme et appuie sur la gâchette. Une de ses cuisses explose. Le sang éclabousse la rampe et la rambarde en fer. La femme hurle jusqu'à ce que sa voix se brise, puis, haletante, elle commence à prier.
Maranatha, viens, Seigneur Jésus, viens.